midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. J'ai fait un tarif de couple aujourd'hui puisque je reçois un couple d'auteurs. Alors, vous avez à gauche, si vous avez la stéréo, c'est Julie Barlow. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et Jean-Benoît Nadeau, bonjour.
Bonjour.
Jean-Benoît. J'ai appris que votre nom, ça voulait dire Noël.
Eh oui, Noël en occitan.
Hein?
En occitan.
En occitan.
Eh oui.
C'est-à-dire?
Il y a des Québécois, on dit souvent que les Québécois viennent surtout du nord-ouest de la France, mais il y a certains Québécois qui viennent de Charente-Maritime. Nadeau en était un.
Bon, comment vous savez ça?
Oh, c'est parce que les Québécois sont... Ben, il y a deux raisons. D'abord, parce que Nadeau, c'est un mot occitan, donc c'est la langue du sud de... du sud de la France, langue traditionnelle régionale, et parce que les Québécois sont de grands amateurs de généalogie et font retracent leurs ancêtres. Ça, c'est pas moi, c'est mes parents qui l'ont fait, mais bon, on vit avec.
Très bien. Julie, vous, votre langue maternelle, c'est l'anglais.
C'est l'anglais.
Et vous avez appris le français à quel âge?
J'ai commencé à l'âge de 20 ans. À peu près. Donc, ça fait...
Mais tardivement, en fait.
Oui, assez tardivement.
Ah oui, très, très tardivement, pour le coup.
Puis, c'était pas vraiment mon intention d'apprendre l'anglais dans la vie, mais j'ai rencontré Jean de français, si tu veux. Et voilà, j'ai rencontré Jean, c'était donc pour l'amour.
Ah, c'est par amour.
Le grand cliché de la langue française, on l'apprend pour l'amour, la cuisine.
La cuisine, d'abord. maintenant, avant, c'était l'amour, maintenant, c'est la cuisine, d'abord, j'ai l'impression.
Un peu les deux.
Ouais. Voilà. Alors, vous êtes tous les deux auteurs, journalistes, conférenciers, vous étudiez la langue française dans le monde, hein. C'est même presque une mission pour vous, et puis vous publiez des nombreux livres sur le sujet. Oui. Le dernier en date s'appelle « Ainsi parlent les Français », le sous-titre est aussi important que le titre « Code, tabou et mystère de la conversation à la française » aux éditions Robert Laffont. Et alors, c'est pas une traduction d'un livre que vous avez déjà publié, mais c'est une adaptation d'un livre que vous avez publié.
Exactement.
Voilà.
Mais est-ce que c'est vous qui avez traduit?
Oui.
Oui.
Absolument. Traduction, adaptation, mise à jour, c'est nous.
C'est une commande hein, qu'un éditeur new-yorkais a fait pour vous.
Commande. C'est une idée qu'on a eue.
Ouais.
On avait le goût d'explorer disons problématique interculturelle entre les Français et les étrangers, donc on a décidé qu'on essaierait de décoder les Français, de comprendre la manière qui communique, qui s'exprime, qui parle, et c'est assez mystérieux pour les étrangers qui arrivent en France. Le problème, c'est qu'ils savent pas les codes, ils connaissent pas les codes des Français, donc ils frappent le mur un peu en essayant de communiquer avec un peuple qui s'exprime.
Qu'est-ce que vous appelez les codes des Français?
Les codes, par exemple, les Français disent très facilement non. Pour un Nord-Américain, c'est surprenant. Les Nord-Américains disent pas non aussi facilement, puis nous, quand on dit non, c'est non. Alors qu'en France, souvent, non, c'est pas nécessairement non, c'est autre chose. Mais ça, le non vient vite et on prend ça un peu de travers. Hein. Et donc, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le nom. Et ce qu'on a compris qu'il y avait derrière le nom, c'était que, en fait, il y a un tabou. C'est le tabou, la peur de la faute. La peur d'être pris en ridicule, de pas savoir, etc. C'est 90% des noms,
c'est des oui.
C'est des oui. Ça deviendra un oui si on persiste à parler, à converser avec la personne.
Puis il y a aussi le bonjour. Évidemment, on débute le livre avec le bonjour. Les Français disent bonjour. Les étrangers pensent que ça veut dire bonjour, mais en fait, ça veut dire c'est qu'on annonce qu'on a envie de parler avec quelqu'un. On dit bonjour, on attend le bonjour, et ensuite on a le droit de commencer une conversation avec quelqu'un. Les étrangers arrivent ici, ils savent pas trop, ils savent pas qu'il faut absolument dire bonjour et attendre. Qu'on redise bonjour avant de commencer. Donc, ils rencontrent une espèce de froideur chez les Français quand ils oublient de faire ça. Mais c'est drôle, les Français sont ils le disent, c'est un réflexe chez les Français. Ils sont pas conscients du fait que...
Pourtant, les Français ne naissent pas en disant bonjour, quand même.
Non, vous
voyez,
oui.
c'est pas...
Non, ils l'apprennent. C'est les familles, c'est l'école, c'est la société. Mais
on va apprendre un mot, d'ailleurs. Vous dites que c'est le bonjour à une fonction fatigue.
Oui.
Alors, ça s'écrit pas comme ça se prononce, fatigue.
Non, c'est pas la fatigue, c'est la fatigue.
Fatigue.
P-H-A-T-I-Q.
Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction fatigue dans un mot?
C'est une fonction qui annonce un code non verbal. Des mots fatigues dans la langue française, c'est bonjour, c'est au revoir, rolala, qui est pas vraiment un mot.
Je ne sais même pas d'où vous sortez rolala.
Non,
parce que vous dites que les gens, quand ils vont râler, ils l'annoncent par ce
rolala.
Vous sortez ça d'où, là? Personne ne fait rolala.
Rolala, mais oh, rolala, oui.
Non, c'est olala, mais que vous entendez mal.
Non, les gens font rolala. C'est vraiment
rolala. Donc quelqu'un qui va s'énerver ou qui va râler, il fait un rolala.
On entend ralala. Moi, j'entends ralala.
Julie, vous entendez rolala aussi? Oui,
ralala, oui.
Pas autant que bonjour, évidemment, mais on entend quand les Français.
Mais c'est un signal dans lequel ralala, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment un mot, c'est un bruit. C'est un peu comme c'est toutes les cultures ont ce genre de terme-là. Chez les anglophones, c'est hi. Ils disent à tout propos.
Oui, mais regardez, j'ai presque envie de vous dire que le bonjour chez les anglophones, c'est hi.
Oui,
il y a une différence.
Hi everybody, blablabla.
Ouais, on n'est pas du tout obligé de dire hi avant de commencer à parler à quelqu'un. On arrive à quelqu'un. Mettons, par exemple, j'explique dans le livre, je raconte l'anecdote de moi dans le métro avec mon ami en fauteuil roulant. Je cherche à savoir comment entrer dans le métro. Je m'énerve un peu. J'arrive devant le kiosque puis je demande à l'homme
au préposé,
excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Mais ça se fait pas en France. Il me regarde comme ça. Un anglophone va arriver quelque part, puis au lieu de dire hello, hi, il va dire excuse me, puis on va tout de suite poser la question, et puis ils vont nous aider, quoi, pas les Français.
Règle numéro un, en France, on est servi et reçu comme on s'annonce. Si on ne s'annonce pas, on n'aura pas le service qui va derrière. Donc, ne vous étonnez pas si un serveur de café est désagréable. Il n'est pas naturellement désagréable. C'est parce que vous ne lui avez pas dit bonjour avant.
Exactement.
C'est vrai pour tout le monde. Mais c'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, c'est ce qu'on explique et ce qu'on dit aux étrangers, c'est si vous pensez que vous l'avez trop dit dans une journée, vous l'avez probablement dit suffisamment. Ce genre de terme-là, essentiellement, annonce je suis là, j'entre dans votre bulle, je suis prêt à vous parler, je m'apprête à vous parler.
Je vais vous demander quelque chose.
C'est ça. Et une fois que c'est passé, la conversation peut aller très vite vers des questions plus d'opinion.
Tout de suite.
Les gens sont réceptifs. Immédiatement réceptifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français ne définissent pas l'espace privé, l'espace public de la même manière que les Nord-Américains. Par exemple, pour un Nord-Américain, émettre une opinion sur quelque chose, commenter, corriger une personne, c'est quelque chose qu'on fait pas en public avec quelqu'un qu'on connaît pas.
Vous racontez ça quand on est en couple, même si on n'est pas d'accord, on le dit pas devant les gens.
C'est ça.
Voilà, exactement.
Semblant d'être du même avis.
C'est ça. Ou voilà. Si on est forcé de cette situation-là, on va tourner ça en blague. Alors qu'en France, ça fait partie de la conversation immédiate qu'on s'autorise en public. Les Nord-Américains vont faire de l'humour en public, immédiatement, avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, plutôt que de faire de l'esprit. L'esprit, vont réserver ça à une conversation intime. L'argent en public. En France, l'argent est une question intéressante. L'argent, il y a comme quatre argents différents. Il y a l'argent qu'on n'a pas. Il y a l'argent qu'on...
Dont on parle très, très bien.
On parle beaucoup. Et l'argent qu'on fait, l'argent qu'on gagne, si on en parle très peu. Changement important, je pense, dans les 20 dernières années, l'argent impersonnel, l'argent de l'économie. On en parlait assez peu ouvertement il y a 20 ans. Maintenant, on en parle plus aisément.
Le business, on en parle plus.
C'est ça. Donc, il y a des évolutions. Là. Nous, on tient pas pour acquis dans le livre, et on le dit très bien à l'introduction, que les Français sont des robots qui suivent toujours le même processus puis qui évoluent pas. Au contraire, les gens sont remarquablement flexibles, adaptables, accueillants en général, mais ils ont leurs us et coutumes.
Voilà, par exemple, sur l'argent, vous partez d'une histoire personnelle qui vous est arrivée. Il y a quelques années, vous ne signez pas de contrat avec une radio concurrente, qui vous demande autour d'une conversation de réaliser une émission de 2 heures. On parle de tout, de la fille, de la vie, du français, et on parle
Des vacances, des enfants, n'importe
mais
quoi.
Mais on parle pas de contrat, on parle pas d'argent. On sait qu'on sera payé, mais on sait pas combien. Et...
Exactement, ça vient à la fin.
C'est très français. Mais, je vous jure, c'est très, très français.
Oui, oui.
Surtout dans certains milieux où, de toute façon, les gens ont déjà un peu d'argent. Donc, plus on a d'argent, moins on en parle. Donc,
Mais c'est roué en même temps. Ça sent que c'est une position de négociation très forte. Et ce qu'on a vécu, bien d'autres gens en affaires.
Mais vous n'avez pas négocié. Oui, vous avez pris ce qu'on vous a donné au final.
Exactement. On a dit oui avant d'être d'accord sur les termes. Et
c'était évident, vous disiez. Oui, vous étiez là, bon, voilà.
Mais c'est intéressant parce que dans les négociations importantes, c'est le même comportement. Et les gens avancent dans la discussion. Puis à un moment donné, ils ne parlent pas d'argent. Puis là, il n'y a plus le choix. Puis ils sont obligés d'accepter les termes. C'est roué comme attitude, comme position.
C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, on parle d'abord d'argent, c'est ça?
On parle aisément d'argent. En fait, c'est un sujet qu'on peut aborder avec... après n'importe qui, on peut puis boulot, évidemment on pose la question qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est une façon de vraiment commencer une conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais au niveau du contrat puis le même expérience en Amérique du Nord, on l'aurait pas eu,
vous auriez su dès le départ,
mais pas dès le départ, mais assez rapidement,
assez vite.
Puis pas après trois rencontres de deux heures avec trois personnes différentes, dont
la
personne qui était responsable des contrats.
Oui.
En fait, on est sorti de son bureau, on n'en venait pas. C'était
on avait la DRH, oui, parce que vous aviez rencontré le directeur qui lui est très 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 bavard de son donc déjà.
Ouais.
Mais c'est peut-être pas à lui à effectivement de parler de la chose, mais même les gens qui sont concernés n'abordent pas la question de l'argent.
Et il faut parler en France, il faut continuer à parler, c'est incroyable. On n'a pas le droit d'arrêter.
Mais finalement, quand tout est arrivé, on n'avait pas un contrat, mais deux contrats. mais en fait, c'est intéressant parce que les Nord-Américains ils ont le contrat facile, donc c'est-à-dire que l'entente commerciale se fait rapidement, mais ils ont le litige facile aussi parce qu'ils font affaire avec des gens qu'ils connaissent pas. Les Français, j'ai dit que c'était roué, mais en même temps, il y a une certaine sagesse là-dedans parce que faisant une entente avec quelqu'un avec qui on a conversé puis qu'on connaît mieux, il y a plus de chances de réduire des
parce que les Français mélangent tout en fait, le fait qu'on est amis, le fait qu'on travaille ensemble, qu'on fait partie de la même famille, vous voyez, c'est comme
ça. Ça fait partie de la négociation également.
Vous voyez ce que je veux dire, ça permet de vous avoir un petit peu d'une certaine manière, on est une famille, tu sais bien, donc on travaille en famille. Qu'est-ce que la façon dont les gens parlent d'argent nous apprend sur eux? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur les Français? Est-ce qu'ils sont complexés par rapport à l'argent? Est-ce que ça veut dire que c'est tabou, ça ne se fait pas, c'est mal élevé?
Mais je pense qu'on peut regarder ça probablement de différentes façons. Mm-hmm. Je pense que les Français trouvent, je pense qu'ils n'ont pas tort, c'est un sujet ennuyant. Il n'y a pas d'opinion là-dessus. Il n'y a rien qui... C'est noir et blanc. C'est pas très intéressant. Les Français, en tout cas dans notre expérience, ont plus tendance à vouloir exprimer une opinion sur quelque chose. On parle très facilement. Ils valorisent beaucoup la culture générale, beaucoup plus que les Nord-Américains.
Mais ça,
donc,
c'est
ils ont plein de choses à faire à dire sur la.
C'est parce qu'ils ont de la culture générale en fait. Contrairement aux Américains.
Voilà. Donc.
C'est un cliché que je véhicule.
Oui, mais vous avez pas entièrement tort. Mais les Nord-Américains sont gênés quand ils ont de la culture générale. Ils sont gênés de la montrer.
Ah oui.
Et plusieurs Nord-Américains trouvent libérateur de venir en France. Pour pouvoir être capable de la...
Il y avait un célèbre président de la République, enfin, on n'est pas de la République chez vous, le président américain, par exemple, Bush, est toujours passé pour un quelqu'un d'illettré, d'un culte, alors qu'il a une forme de culture.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les élus nord-américains, et ça c'est vrai au Canada, au Québec, aux États-Unis, vont avoir peur de montrer leur grande culture, peur de passer pour élitiste.
C'est des pièges. En fait, John Kerry est tombé là-dedans, Barack Obama aussi également.
Il parle français un peu, Kerry.
Il y a rien de pire que de montrer qu'on parle français.
Vous racontez qu'il a utilisé un mot, un jour, un mot français, en pleine conférence de presse.
Fin de sa carrière, voilà.
Non,
pas à ce point-là, mais quand même, c'est...
Mais mal vu.
Mais c'est parce que c'est élitiste, et les Américains, on voit le résultat.
Ils préfèrent quelqu'un qui a la culture du barbecue que quelqu'un qui a la culture de la langue française.
Mais ils sont plus à l'aise, ils sont plus confortables avec ça.
J'aimerais ajouter que une des raisons pour laquelle les Français répugnent à parler d'argent public, en particulier de l'heure, c'est un vieux fonds paysan. Ça remonte à une époque où les gens étaient taxés sur la valeur apparente. Et parler négativement de sa situation, parler négativement de la situation générale.
Il faut se faire plaindre.
Il faut se faire plaindre parce que ça, on va être aidé, mais on sera pas taxé.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'air plus pauvre qu'on est en vrai. Ouais. Allez, Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau sont les invités du Book Club. Je rappelle le titre de leur livre, hein. Ainsi parlent les Français, on parle de nous aujourd'hui. Code tabou et mystère de la conversation à la française. On va revenir sur ce mot de conversation dans un instant aux éditions Robert Laffont.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club a lu pour vous aujourd'hui « Ainsi parlent les Français », code tabou et mystère de la conversation la française. Je reçois aujourd'hui Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau aux éditions Robert Laffont. Vous l'entendez aisément, ils ont un accent qui vient de quelque part et leur accent vient du Québec. Vous expliquez que ce qui a changé en France, c'est qu'on se moque moins de votre accent, alors qu'avant on le faisait très facilement. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Carrément.
Moi, ma théorie là-dessus, c'est que le Québec, beaucoup plus de chanteurs, d'artistes québécois sont entrés sur la scène française. Ça remonte à loin, hein, vous savez.
Vous avez fait plusieurs.
Félix Leclerc c'est... dans les années 50, etc. Mais il ouais. y a eu le débarquement de Starmania, le premier, en des années 70. Mais dans les années 90, au moment où les radios les règles sur la chanson francophone se sont installées dans les radios françaises, la fameuse loi Pelchat, beaucoup de chanteurs québécois sont arrivés. Et les chanteurs, les humoristes, il s'est développé une certaine familiarité. Beaucoup de Français voyagent en Amérique, notamment au Québec, immigrent, étudient. Et le Québec, après avoir passé pour une chose un peu provinciale, même arriérée, incarne maintenant une certaine modernité, je dis.
J'ai bien raison de dire une certaine modernité.
Certain
devant modernité.
Non,
oui.
je fais très attention à ça, mais à certains égards, bien des Français trouvent le Québec, je trouve parfois même exagérément moderne. Ce qui fait que, comme le Québec incarne une certaine américanité aussi, l'anti-américanisme est beaucoup moins fort aux États-Unis.
Ça, c'est quelque chose que vous avez. Non, mais en France, vous dites qu'on est beaucoup moins anti-américain.
Moins catégorique, je dirais.
Moins qu'il y a 20 ans.
Oui. Ouais, moins. Je pense que les Français regardent ailleurs un peu plus. Ils sont. Je ne sais pas si je dirais qu'ils sont plus ouverts sur le monde. Ils ont toujours été ouverts sur le monde, à mon avis. Mais ils regardent ailleurs pour des idées, des exemples, d'autres façons de vivre. Et c'est sûr que le Québec représente pour eux, peut-être pas le monde idéal, mais une alternative, quoi. Puis tout le monde, ils connaissent mieux, ils connaissent le Québec. Ils nous posent pas la question. Ils nous disaient, les cousins avant, c'était vraiment. Mais là, ils posent la question souvent, d'où vous venez au Québec? J'ai un cousin, j'ai quelqu'un. Ils sont familiers.
Il y a quelque chose de très français, par exemple, parce que les gens, ils ne vous demandent pas d'où vous venez. Ils vous disent, de quelle région vous venez au Québec?
Voilà.
Le régionalisme, ça, c'est très français.
Ils sont bien élevés.
C'est la question qu'on. Les Nord-Américains ont toujours tendance à demander à quelqu'un d'où venez-vous?
Ouais.
D'où venez-vous? C'est une question plus commun dénominateur. Encore là, on ne veut pas montrer qu'on peut penser qu'on le sait. On les laisse aller.
Ouais.
C'est neutre. Mais quand on pose cette question-là à un Français, on a appris assez vite là, que ça peut même être insultant.
On remet en question leur appartenance à la nation, à la France, en fait. C'est ça qui est implicitement. Et encore là, c'est une affaire que les étrangers ne comprennent pas. Ça débute mal les conversations avec les Français quand on remet en question leur nationalité.
De quelle région êtes-vous? C'est la question neutre qui
les amène à parler de leur région, de la géographie, de la cuisine, des choses dont ils, avec leur culture générale,
ce qu'ils aiment bien.
Voilà,
ils aiment bien.
Ils sont très à l'aise.
Alors, en quoi est-ce que Donald Trump est-il plus français, le plus français de tous les présidents américains qu'on ait eu depuis longtemps? Ça, alors je me suis gratté.
Ah non, mais ça c'est une boutade, mais je vous.
Ah, c'est de l'humour québécois.
Parce que on explique dans le livre, Julie et moi, que les Français ont le pessimisme facile en public et l'optimisme. En fait, c'est des optimistes de placard, comme on dit au Québec, des optimistes refoulés. Parce que les sondages montrent que quand on demande à des Français comment ils se trouvent par rapport à leur situation personnelle, ils sont plutôt optimistes. Puis quand on leur demande ce qu'ils pensent pour la société, ils sont absolument négatifs. Dans des proportions de 80% pour les deux questions, ce qui est absolument étonnant. Mais on est donc en face d'un pessimisme presque jubilatoire en public. Et un type comme Macron s'est fait élire sur une base optimiste affirmée. C'était en tout cas pas pessimiste.
Malheureusement, votre livre, vous êtes arrivé après Macron.
Ouais, ben c'est ça, on est arrivé entre les deux.
En fait, vous avez écrit votre livre avant la modernité.
Ben oui, mais la traduction adaptation s'est faite
pendant la modernité, dans le Nouveau Monde, je veux dire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les Américains sont un peu l'inverse. En privé, ils sont plutôt pessimistes. En tout cas, on le voit, ça existe, c'est très présent. Mais en public, ils sont résolument optimistes. Et un Trump est arrivé avec une base électorale d'un pessimiste absolument terrible, terrifiant. C'est incroyable être aussi pessimiste de façon affirmée qu'il ne l'est. Il n'y a rien. Cette idée-là de « Make America Great Again », c'est comme si l'Amérique ne l'était pas. C'est absolument extraordinaire d'affirmer une telle chose. Donc, c'est pour ça qu'en boutade, on a dit qu'il était le plus français des présidents américains.
Bien. Alors, vous dites que nous on a absolument aucune raison d'être pessimiste, parce que finalement, vous qui venez d'ailleurs et qui avez un regard neuf sur la France... Alors déjà, pour tous ceux qui mettent leurs enfants à la cantine, vous trouvez que la cantine, c'est formidable.
Ben, c'est formidable pour les parents. Je sais pas pour les enfants.
Pour ceux qui ont toujours connu ça, ils se disent, non, c'est dégueulasse, pardon.
Pour les enfants, pour les parents, c'est magique. On se réveille le matin, la vie est simple, on envoie les enfants. Les enfants, c'est sûr que nos filles ont pas adoré ça non plus. On trouvait juste que surtout pour les femmes, en fait, la vie, les services sont là, la vie est organisée autour de la famille, pas mal plus que même au Québec, en fait. Bon. Surtout beaucoup plus qu'aux États-Unis.
Il y a bien des écoles au Québec qui n'ont pas de cantine. Certains n'ont même pas de cafétéria. Mm. Les jeunes mangent dans le corridor.
Oui, c'est avec leur lunchbox.
Ouais.
Voilà.
C'est un rituel nord-américain que de préparer la gamelle à tous les matins.
Ceci dit, on mange peut-être mieux et de façon plus équilibrée quand on mange avec une gamelle. Au moins, on sait ce qu'on mange.
Peut-être.
Mais bon, après, c'est culturel. Mais d'un autre côté, vous parlez des transports en commun, vous parlez des hôpitaux, des traitements, des routes. Finalement, la France, ça marche bien.
Oui, mais en fait, c'était l'idée de notre livre précédent. On est arrivé en France à un moment donné où les Américains critiquaient la France. Les Américains ont toujours pensé que c'était pas possible pour un pays d'être à leurs yeux aussi socialiste, puis de fonctionner, que l'économie continue à marcher. Nous, on est arrivé, puis on a dit, écoutez, ça va plutôt bien, les Français vivent plutôt bien, mais il faut le voir, le système, selon la manière qu'ils s'organisent selon leur goût, pour leur bien, et ça fonctionne bien. Donc ça a toujours été, on a toujours vu la France en partant comme un pays qui marche plutôt bien.
Les comparaisons sont toujours très difficiles. Je vais vous donner un exemple. Le chômage. Tout le monde compare le taux de chômage des États-Unis avec la France.
Qui est très faible aux États-Unis.
4%. Mais vous savez, on ne mesure pas la même chose. Aux États-Unis, 4% de chômage, c'est pour des demandeurs d'emploi qui ont demandé un emploi à l'intérieur de 30 jours. Au-delà de 30 jours, ils ne sont plus des chômeurs. En France, c'est 6 mois.
Ils sont quoi au-delà de 30 jours?
Ils sont hors chômage, hors statistique de chômage. Alors qu'en France, c'est 6 mois. Je suis à peu près convaincu que si en France on appliquait les statistiques de chômage américaines, on aurait 3 ou 4% de chômage en France.
C'est au-delà de 6 mois en France. C'est 18 mois même.
Où je veux en venir, c'est que si on appliquait les statistiques françaises de chômage aux États-Unis, on aurait probablement 9% de chômage. Donc, le chômage comme base de comparaison à prendre avec des pincettes. Nous, on a beaucoup regardé la façon dont les choses fonctionnent. Et à franchement parler, oui, il y a des problèmes en France. Oui, les trains n'arrivent pas à l'heure à tous les jours, mais ils arrivent. Il y a bien des endroits en Amérique du Nord où il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train en banlieue de Montréal à bien des endroits. C'est incroyable. Les gens sont... On se plaint ici du tout voiture, mais au Canada, c'est tout voiture pour se déplacer d'un quartier à l'autre.
Donc, on ne parle pas de la même chose. Non. Par exemple, quand on dit bon appétit en France, c'est pas la même chose que quand on dit bon appétit en Amérique du Nord.
Non.
Mais on dit bon appétit en Amérique du Nord pour faire chic.
Pour faire chic, c'est ça.
Bon, déjà, oui.
Voilà. Mais ici, on le dit parce qu'on dit... on annonce que c'est le temps de manger.
Ben, c'est qu'on annonce que c'est le temps de manger ou qu'on est en présence de quelqu'un qui mange puis on n'est pas dans son rituel. Par exemple, j'ai été beaucoup surpris de, par exemple, manger une pomme dans la rue puis quelqu'un passe à côté de moi et me dit bon appétit. Jamais un Nord-Américain dirait bon appétit dans ce contexte-là.
Mais le contraire, en fait.
Parce qu'une pomme, c'est pas suffisamment bon pour qu'on vous souhaite un bon appétit, c'est ça?
Non, et dans l'esprit d'un Nord-Américain, l'expression bon appétit, c'est dans un contexte formel.
Pour souligner le fait qu'on mange vraiment bien dans un contexte, exactement.
C'est ça.
En famille, avec des gens.
Alors que chez les Français, c'est pour s'indiquer que je mange et que cette personne-là est en ma présence, mais n'est pas dans mon rituel.
Que j'accepte que vous mangez.
J'accepte que vous mangez. C'est un peu...
C'est un code.
Les Français ont importé la semaine dernière le Black Friday, le Cyber Monday, et alors le Giving Tuesday. Il y a le Giving Tuesday, j'ai appris ça hier. On les a pas traduits. On les a importés tels quels.
Mais c'était une spécialité des Français. J'arrive de l'Allemagne, il y avait un Black Friday à Hambourg également.
Au Québec.
C'était un concept, ouais, au Québec, on l'a aussi. Mais la particularité des Français, c'est qu'ils importent ces mots, on les appelle angloïdes. Ils sont pas vraiment ils importent des mots anglais pour faire chic dans la publicité. Mais ils n'ont pas le même sens souvent en France qu'en anglais réellement. Donc
les marchands vont tout essayer pour vendre leur salade. Hein?
Voilà.
Et il y a eu Halloween à un moment donné. Halloween n'a pas vraiment pris racine parce qu'on peut pas passer l'Halloween d'une maison à l'autre avec des digicodes. Ça s'est arrêté là.
on a un petit peu il y a les bonbons d'avoir.
L'essence du Black Friday aux États-Unis, c'est que c'est une journée de solde à 70-80% de solde.
On n'a pas importé ça.
Non, puis surtout, comment pouvez-vous le faire quand c'est la préfecture qui autorise les journées de solde en janvier puis en juillet? Et puis là, le reste de l'année, c'est des petits soldes à 2 ou 3%, mais c'est ridicule, ça fonctionne. Les gens voient très, très clairement, ça durera pas très longtemps. Ça vaudra probablement même pas le papier sur lequel c'est imprimé en termes d'efforts publicitaires. Je suis à peu près convaincu.
Bon, donc, ça vaut pas une traduction, finalement.
Probablement.
Non, vendredi noir. D'ailleurs, vendredi noir, c'est très négatif, finalement, en français. Ouais. Ça ferait vendre rien du tout.
J'ai jamais compris en anglais non plus qu'est-ce que ça signifie exactement, le vendredi noir.
Je sais pas.
Parce qu'à l'origine, c'était le vendredi de l'année où ils travaillaient le moins, puisque c'était le lendemain de Thanksgiving. Et donc, il y avait personne dans les magasins. Donc, c'était un vendredi noir pour les commerçants.
C'est ça.
Peut-être,
peut-être.
Mais il y a eu plusieurs vendredis noirs, parce qu'il y a eu le vendredi noir du crash boursier de 4 octobre 87, qui était un vendredi noir. Il y a eu plusieurs vendredis noirs dans la culture commerciale américaine. Donc,
Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau sont nos invités, les invités du Book Club. Ainsi parlent les Français, c'est le titre de leur livre sous-titré « Code tabou et mystère de la conversation à la française ». L'éditeur, c'est Robert Laffont.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle français, on parle François, on disait à une époque, à l'époque de François Ier d'ailleurs, puisque c'est lui, grâce à lui, que le français s'est imposé comme oui.
Et même François, on parlait François.
François, c'est l'accent Jean-Benoît Nadeau, et
oui.
Julie Barlow, vous êtes tous les deux nos invités, pour parler de Ainsi parlent les Français, code tabou et mystère de la conversation à la française, chez Robert Laffont. Alors, il y a une question que vous aimez beaucoup, c'est quelle est la méthode pour écrire votre livre? J'en ai d'autres des questions.
Non, mais c'est intéressant effectivement, parce qu'effectivement, on n'a pas voulu faire un livre qui était une collection d'essais personnels, individuels.
Ouais. Non, mais d'abord c'est intéressant parce qu'on fait c'est une question très très française de nous poser la question par rapport à la méthodologie.
Quelle est votre méthodologie? Il appartient à quel genre votre livre? C'est un livre d'anthropologie, c'est un livre d'enquête, c'est un livre de journaliste, c'est un livre de quoi? C'est un livre
de reportage, journalistique, réflexion.
Livre de voyage, observation, réflexion, et de l'anthropologie. Moi, ou d'ethnologie. Notre approche, on a étudié à l'université McGill. C'est là d'ailleurs là qu'on s'est connus. À l'époque, on était avec un de nos professeurs. C'était le professeur Charles Taylor. Et on étudiait des textes grecs anciens. Il passait l'ensemble du cours à non pas à nous parler du texte, mais à parler de la société autour, pour qu'on comprenne le texte. ça m'a pas beaucoup servi pendant mes 10 premiers de journaliste. Puis quand on est venu la première fois en 99, je me suis rendu compte que pendant 2 ans, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on va comprendre les Français quand on va avoir compris ce qu'il y a autour, comment les choses.
On écoute, on entend, on a des expériences et ensuite on essaie de comprendre ce qui...
Mais est-ce que la façon dont, par exemple, les Français parlent nous apprennent de ce qu'ils sont?
Oui. Et ça nous enseigne, mais bon, on ne peut pas, j'en reviens à la méthode, puis après je vais répondre à votre question. L'autre élément de notre méthode, c'est de beaucoup questionner nos propres réactions. Pourquoi telle situation me fâche et paraît normale aux Français? Et donc, je m'interroge beaucoup sur mes réactions. Donc, ça fait un discours honnête. Pas toujours...
Un
discours honnête. Une tentative honnête d'essayer de comprendre l'autre sans
se libérer de ses préjugés. Plutôt que de notre perspective nord-américain, on essaie d'enlever ça un peu, puis de regarder ça puis de la manière que les Français le voient eux-mêmes.
Bon,
donc, c'est un livre qui avait le but d'être utile pour des gens en partant. D'abord, la version anglaise, c'est vraiment pour les étrangers qui viennent ici puis qui
pensent. Rencontrent
qu'ils sont pas capables de communiquer avec les Français.
Oui, mais qui ont des préjugés sur les Français. Les Français sont snobs, désagréables, pas accueillants.
Mais les Français ont souvent ces mêmes préjugés-là pour eux-mêmes aussi.
Ils idéalisent beaucoup les Français. Le problème, c'est qu'ils arrivent ici puis qu'ils disent qu'ils aiment pas les Français quand ils les rencontrent. C'est parce qu'ils savent pas communiquer avec les Français parce qu'ils connaissent pas les codes. Donc c'était ça le but du livre, et là l'adaptation c'est plutôt de montrer les Français des yeux des étrangers.
Voilà, mais les codes, mais genre toute société finalement a des codes de communication.
Oui.
Mais est-ce que ça veut dire que les Français déjà ont plus de codes que les autres?
Je pense que les Français sont juste plus intéressants que les autres. Non, je dis ça parce que vraiment le monde est fasciné par la France, par les Français.
Non, je crois pas que les Français ont plus de codes. Mais pour un Nord-Américain, puis j'ai longtemps pensé que la société nord-américaine avait moins de codes que la France. J'en suis de moins en moins convaincu. Mais simplement, ces codes-là chez les Français sont assez nets dans leur esprit. Par exemple, un Français qui veut pas connaître ou parler à quelqu'un, c'est très simple pour lui, il parle pas à cette personne-là. Ça s'arrête là, il l'ignore. Un Nord-Américain va parler pour signifier à l'autre qu'il veut pas lui parler. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Et en fin de compte...
Comment il signifie à l'autre qu'il ne veut pas lui parler en lui parlant? Qu'est-ce qu'il lui fait passer comme message?
Ça permet de comprendre que c'est pas personnel.
Mais ce qu'il va dire...
C'est pas personnel, c'est juste la blablabla, une petite conversation, on le fait, on en finit avec, il y a rien de plus, il y a rien qui suit. En fait, les Français qui commencent à parler, c'est pour vraiment continuer à parler, pour partager. Le Nord-Américain, c'est une manière de dire on se touche, mais ça veut rien dire.
C'est comme ça que, si on parle de la réputation des Français, c'est vrai qu'on a cette réputation d'être distant, d'être arrogant, parfois. Les Américains les Nord-Américains ont une réputation d'être superficiel. C'est-à-dire qu'un Nord-Américain, quand vous le connaissez depuis 5 minutes, vous savez ce qu'il fait, combien il gagne, vous avez vu la photo de sa maison, de sa voiture, son chien, de ses enfants, de sa femme, et le lendemain, comme vous l'expliquez dans votre livre, il se souvient plus de votre nom.
Non.
C'est ça.
Donc, ça veut dire, là, il vous a rien donné. Il vous a donné, finalement, ce qu'il donne à tout le monde.
Mais c'est parce que...
C'est pas perso.
Il y a deux choses en ligne. L'Américain, il veut être... Son obsession, c'est pas la peur de la faute comme les Français. L'Américain, déjà, j'inclus des Québécois là-dedans, qui sont des Américains qui parlent français. L'Américain a peur d'être rejeté, a peur de pas être aimé.
Oui.
C'est son obsession absolue. Alors, même quand il veut pas vous parler... Il va tout faire pour quand même être aimable, et donc il va vous parler des banalités, il va vous faire des sourires, il va dire des inanités. Ça va être complètement banal, mais en fin de compte, c'est pour vous dire qu'il est gentil, mais qu'il veut pas vous parler. C'est essentiellement ça.
C'est ça.
Donc c'est compliqué, un Américain. Donc moi j'ai trouvé la grande révélation de la recherche de ce livre-là, c'est qu'au fond les Français sont beaucoup plus simples qu'on
pense. Facile à décoder qu'on pense.
Ah oui, moi j'en
comme le hug, hein. Le hug, c'est très américain, cette façon qu'ils ont de vous prendre dans les bras.
La bise de l'ours.
Mais en fait, c'est pour pas vous faire la bise. bise, c'est ça?
C'est ça.
Parce que on vous hug, mais on vous fait pas la bise. Donc, si un Américain vous hug, ne faites pas une bise.
Non, là, ça va.
C'est trop personnel, c'est trop intime. En fait, ça signifie quelque chose. Puis c'est pas ce qu'il veut.
C'est-à-dire que se prendre dans les bras, c'est pas intime.
Il veut être aimé.
Pas de la même manière.
C'est pas intime de la manière de donner la bise. C'est intime.
Vous pouvez faire une bise à 20 cm quand vous voyez.
Moi, c'est un système.
Oui, mais les Québécois, on fait pas ça. Les Québécois, on donne la bise.
Non, ça, les Québécois sont
pas. Vous huguez pas, vous?
Non, pas trop.
Pas la... Vous dites qu'il y a une vraie différence dans la signification du mot ami. Donc, oui. Friends, c'est pas ami. Ouais. Et c'est pas encore, en plus, c'est même pas ami intime.
Le connoté est pas le même, effectivement. Facebook ne pouvait être qu'américain. Tel que sa notion de friend.
Ouais. Mm. Friend, ça peut vouloir dire bien des choses en anglais, en fait.
Connaissance.
Ami intime, Facebook friend à la limite, ça, on peut adresser la parole à des étrangers parfaits et dire hello friends, puis ça signifie la volonté d'être aimé, en fait. Mm. Encore là.
C'est, oui. Les Américains vont dire « real friend » pour ce que les Français appellent un ami.
En fait,
l'expression « vrai ami
oui, »,
l'expression « vrai ami » en français est totalement bizarre. Mm-hmm. Hein, c'est un vrai ami. Ça se dit, mais ça fait un peu curieux. En anglais, c'est nécessaire de dire « real friend » pour distinguer le « friend » du « real friend
mm-hmm. »,
si je ne me trompe pas.
Ouais, oui,
Vous êtes d'accord avec ça, Julie?
Oui, plutôt.
plutôt en français, c'est ouais.
C'est pour ça d'ailleurs que
en fait, elle est très française. Elle ne veut pas dire, voyez là, elle ne veut pas dire, voyez,
quand même.
Qu'elle n'est pas d'accord. Le plutôt.
Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mot ami signifie quelque chose pour les Français. Et quand on est ami, on a des responsabilités envers l'autre. Et c'est ce qui est un peu absent du concept du mot. Ami, friend, en anglais. Mm. En français, ça. Puis, quand on a réalisé ça, que des amis, c'est vraiment des amis. Hein, c'est des gens qui se voient comme responsables, en fait.
Oui.
Pour nous.
Les Français ont moins d'amis que les Américains, qui ont un concept beaucoup plus large, finalement.
C'est la manière qu'on découvre qu'on est ami avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on ne parle pas avec des connaissances, puis il y a des sujets dont on parle avec des amis. Et quand ils nous parlent de leur famille, de leur boulot, ça veut dire qu'on est dans leur, quasiment dans l'intimité avec un Français, ce qui crée bien des malentendus évidemment entre Français et Américains. Les Américains vont aborder ces sujets-là avec n'importe qui, puis ça signifie rien en fait. Mmh. D'où la déception de bien des Français qui rencontrent des Américains.
Qu'ils trouvent très chaleureux a priori et qui sont très superficiels a posteriori, finalement. Ça ne veut rien dire, finalement.
Ouais.
Qu'est-ce que finalement vous avez compris des Français qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes?
Des Français qui ne savent pas
d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez compris de nous que nous, on ne sait pas sur nous? Par exemple.
Bonne question.
Ben, moi, je crois que j'ai souvent des Français me font parfois même des gros yeux quand je leur dis, mais tout le concept de la laïcité. Au Québec, on se débat avec la laïcité énormément. Ça arrive, puis c'est beaucoup une idée qui est importée de France.
Puis en France, on parle de la laïcité à la française.
Vous avez votre propre débat là-dessus en France. Mais je pense que, on en parle beaucoup en termes absolus. Mais on oublie fréquemment que la laïcité telle qu'elle est appliquée en France est issue d'un compromis historique entre l'Église catholique et la République. Et l'école a été structurée autour de congés religieux, au cours de même d'un horaire scolaire religieux. Les congés à l'origine de jeudi déplacés au mercredi, c'était pour l'enseignement religieux à l'origine. On est en concordat en Moselle, en Lorraine, dans certains départements d'outre-mer. Donc il y a un immense compromis présent. Et je pense que la société française, changeant de composition avec les générations, il y a peut-être un nouveau compromis à refonder. Chaque fois que je dis ça, c'est issu de réflexion à long terme sur la France. Les gens me disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un compromis, mais pas ça fait partie de notre culture. » C'est la première réaction que les gens disent. Mais Mais je pense que c'est une des choses que j'ai comprises et qui mérite beaucoup d'explications.
Vous racontez l'histoire qui est arrivée à vos filles, hein, que vous avez scolarisées, puisque vous êtes venue en France pendant toute une année scolaire, sur la laïcité qui est arrivée dans l'école de votre fille et de vos filles, et au final, le maître, hein, il est parti à la fin de l'année.
Les parents tenaient à ce qu'ils partent. Nous, on a tout essayé de calmer les gens, de démontrer que c'est qualité, mais...
Comme quoi, les questions de laïcité, c'est quand même, c'est tendu en France.
La laïcité, mais c'était pas ça la question, en fait. Les parents, à cette école-là, se servaient du concept de laïcité. C'était pas ça
Il l'avait dans le nez, le gars.
Ouais. C'était un prof, c'était une enseignante qui avait une grande culture, qui venait d'ailleurs.
Oui, mais c'est ça, c'est compris, c'était raciste, presque.
C'était... Sauf que les parents cachaient ça.
Ils se sont servis de
laïcité, voilà, mais laïcité. Lui, il a tourné contre eux. Il a pas fêté Noël avec les élèves. Les parents se sont choqués parce qu'ils respectaient pas la culture française, voilà. Et nous, on n'en venait pas. Nous, on était très très déçus de cette situation-là.
Au fond, ce qui était décevant, c'est que des adultes se sont pas comportés en adultes. Et c'était le pire exemple à donner à des enfants. Mais bon. C'est de l'hommerie, là.
Bon, Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau, on me dit que vous vous intéressez à la langue arabe maintenant. Vous êtes lancé ou pas encore?
Oh là là, j'ai suivi 3 ou 4 cours à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal.
Ouais.
Et mon problème à moi en ce moment, c'est que j'ai à cause de la famille, j'aurais besoin d'aller faire un séjour de 3 à 4 semaines dans un pays arabe pour me
préparer. Si vous voulez, on peut vous envoyer, hein.
Oui, non, j'ai étant parent, là, nos filles ont 15 ans maintenant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à envisager maintenant qu'il y a 5 ans.
En plus, il fait froid l'hiver à Montréal, au Québec, donc.
Nous, on est des créatures de ski, ski de fond, de patins, donc, c'est pas un projet qu'on a relégué au calendrier grec, mais il a fallu le mettre sur le rond en arrière, comme on dit au Québec, du fait des circonstances familiales, mais on s'en approche.
Mais est-ce que ça veut dire que l'arabe est finalement une langue plus difficile à apprendre que le français?
C'est pas mal difficile à apprendre. Moi, j'ai essayé, j'ai passé un mois en Tunisie, mais là, ça fait 10 ans, plus de 15 ans maintenant. Et effectivement c'est difficile. Je cherchais l'occasion de parler. Moi, j'apprends de façon informelle, de mieux. Je cherchais des contextes pour parler. Je me retrouvais dans le marché tout le temps en train d'acheter des choses et discuter avec des marchands.
D'utiliser votre arabe.
Exactement. J'avais plus d'argent, fait qu'il fallait que j'arrête le cours. Mais j'aimerais ça un jour.
En fait, j'ai réfléchi un peu là-dessus parce que je réfléchissais en même temps sur d'autres langues, sur l'espagnol, etc. La difficulté en arabe, ce n'est pas l'arabe, c'est la culture de la langue qui est autour. Par exemple, cette idée d'écrire sans voyelle, cette idée d'écrire sans majuscule, c'est qui complique la lecture. Je me rappelle, je le disais, je peux vous écrire votre nom en arabe, je l'écris, je me rappelle de lire des textes, m'être buté sur un terme pendant une journée de temps pour découvrir que c'était un terme français qui est écrit en arabe. Puis je l'aurais tout de suite compris s'il y avait une majuscule, parce que c'est un prénom. Et j'étais pas capable de le décoder parce que
Il y a une de vos compatriotes, Henriette Walter, qui a fait le travail inverse.
Oui. Hein?
Dans un très bon livre, il y a quelques années déjà. Bien, Julie Barlot, Jean-Benoît Nadeau, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre livre s'appelle Ainsi parlent les Français, code tabou et mystère de la conversation à la française. On a fait de la conversation ce matin. L'éditeur, c'est Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous et très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.